Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Zaïdé pour son premier roman, La patiente du jeudi, qui vient de paraître aux éditions L'Antilope. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Sandrine.
Vous savez que c'est un vrai plaisir de vous recevoir pour une première fois ici, en plus pour votre premier roman.
Ben écoutez, c'est un plaisir partagé. Je suis encore plus heureuse et très honorée, Sandrine.
Alors, quelques mots de présentation pour débuter. Vous êtes spécialiste des traumatismes psychiques, qu'ils soient individuels ou collectifs. Vous êtes maîtresse de conférences en psychologie à l'Université Paris 8. Vous êtes particulièrement reconnue pour votre expertise en ethnopsychiatrie, tout comme votre époux Toby Nathan. Depuis 1990, vous animez en France des groupes de parole destinés aux survivants de la Shoah et à leurs descendants, un travail qui a pris une résonance particulière depuis le 7 octobre, les massacres perpétrés dans le sud d'Israël ayant ravivé des blessures profondes chez vos patients. Mais votre engagement ne s'arrête pas là, vous accompagnez également d'autres victimes de génocide et de violences de masse à travers le monde. En 2004, à Bujumbura, vous avez contribué à la création d'un espace de prise en charge pour les survivants des massacres au Rwanda et au Burundi. En 2009, à Conakry, après les massacres du 28 septembre, vous participez à l'ouverture d'une consultation d'ethnopsychiatrie pour les survivants et les victimes de violences sexuelles. Vous avez publié de nombreux ouvrages et articles sur ces thématiques. Et aujourd'hui, vous prenez une nouvelle voie en publiant votre premier roman, La patiente du jeudi, dont nous allons parler dans cette émission. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important à signaler ?
Oh non, c'est parfait. Merci infiniment.
J'allais dire aussi votre vie a été consacrée à une cause qu'on comprend bien, la parole des survivants. Est-ce que c'est votre histoire familiale qui vous inspire ou qui a été déterminant dans le choix de votre profession ?
Ah, alors là, c'est une question compliquée. Ma profession, c'est d'être psychologue, enseignant-chercheur à l'université, d'être psychologue clinicienne. Est-ce que l'histoire de ma famille a contribué à me motiver, en fait, pour faire ce choix? En fait, je ne sais pas. Je veux dire par là qu'on est tellement de psychologues cliniciens, y en a quand même énormément qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Et de l'autre côté, il y a énormément de descendants de survivants de la Shoah, de victimes de la Shoah, qui ne sont pas cliniciens et qui ne sont pas psychologues. Donc, au fond, en tout cas, le fait, je vais quand même vous répondre, dans mon travail, dans une partie de mon travail, surtout le travail que je dédie aux survivants et aux descendants de survivants de la Shoah, il est évident que le fait que moi, je sois une descendante de victimes de la Shoah et une fille d'enfant caché, une petite fille de déporté, et contribue énormément à me motiver, mais aussi me permet, me donne une légitimité dans mon travail, et puis m'oriente beaucoup dans mes interrogations et dans mes propositions avec les patients.
Ce qui peut expliquer aussi le sujet de ce livre, qui nous vaut votre présence ici aujourd'hui, La patiente du jeudi, un roman qui vient de paraître aux éditions de l'Antilope. Alors je vais en dire quelques mots. La patiente du jeudi, c'est Mona. Mona est une jeune femme sujette à des crises depuis l'adolescence, des crises inexplicables qui la plongent dans un état second jusqu'à l'évanouissement. Cet état second la plonge dans des angoisses profondes, des angoisses qui perturbent sa vie affective notamment, qui s'avère un champ de ruines. Et de ce champ de ruines, elle garde la volonté d'en sortir, et pour en sortir, elle décide de consulter un psychothérapeute. Un psychothérapeute qui l'incite à se faire hospitaliser, des enregistrements révèlent qu'elle parle une langue étrangère dans son sommeil, une langue que même la jeune femme ne reconnaît pas. Cette langue, c'est le yiddish. Le yiddish et le judaïsme avec lequel Mona semble n'avoir aucun lien. Un lien mystérieux sera pourtant relevé au cours du roman. Le roman La patiente du jeudi est captivant et puissant parce qu'il explore avec finesse les liens invisibles entre identité et transmission des traumatismes. Ce roman est donc bien plus qu'une fiction, c'est une plongée intime et troublante dans les méandres de la mémoire et des blessures transmises, une lecture marquante qui laisse une empreinte durable. Voilà pourquoi il est particulièrement réussi. Est-ce que Nathalie, vous pouvez nous expliquer la genèse de l'écriture de ce roman ?
Alors, oui, effectivement, ça fait bientôt 35 ans qu'on a ouvert un service dans l'équipe d'ethnopsychiatrie du professeur Toby Nathan, au centre Georges Devreux, qu'on a ouvert un service dédié aux survivants de la Shoah. L'équipe d'ethnopsychiatrie s'occupe des patients migrants En général. Et là, c'est un service dédié aux survivants et descendants de survivants de la Shoah. Et on a vu à peu près, peut-être 2000, on a suivi 2000 personnes. L'idée de ce roman, finalement, le personnage principal, donc Mona Rose, dont vous venez de parler, m'a été inspirée par tous les patients, par toutes les situations que j'ai vues, que je continue à voir avec l'équipe d'ethnopsychiatrie, avec cette question, ils sont tous, me semble-t-il, porteurs d'une même question. Qu'est-ce que la Shoah a induit chez ceux qui présentent des souffrances psychiques? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est devenu la Shoah, qui est un événement cosmique pour les Juifs d'Europe, de Pologne, de Grèce, de Bulgarie, enfin de Roumanie, de toute l'Europe, de France. Qu'est-ce que la Shoah a produit dans leur fonctionnement psychologique, surtout chez ceux qui présentent des souffrances psychiques. Et l'idée, c'est d'avoir conçu un personnage qui rassemblerait cette question. Donc, elle est la quatrième génération après des personnes qui ont été déportées, donc c'est ses arrière-grands-parents.
Et le lien avec le judaïsme, c'est totalement délité.
Oui,
sait même pas qu'elle a des origines juives.
Elle sait plus ou moins, mais peu importe. En fait, c'est quelqu'un qui est moderne, elle a une trentaine d'années, elle a une mère qui est d'origine basque, qui est née à Paris, elle a un père dont la mère qu'elle a connue, la grand-mère paternelle, est d'origine italienne catholique, assez fervente. Et puis, son père avait un père qu'elle n'a jamais connu parce qu'il est parti quand son père était tout petit. Il est parti faire sa vie ailleurs. Et donc, qui, lui, était un ancien enfant caché, sauvé pendant la Shoah et qui a fait sa vie en Amérique du Sud. Donc, elle sait très bien... elle sait que ses grands-parents maternels sont basques d'origine, elle sait que sa grand-mère est italienne, elle sait que le grand-père était un enfant parisien de parents juifs polonais. Peu importe, elle est moderne, elle est métissée dans tous les sens, on va dire les choses comme ça. Elle a plusieurs origines et puis elle a des problèmes psy-perso. Et elle n'a jamais, ce que vous rappelez, elle-même n'a pas connu des choses difficiles. Elle a été fille unique d'un couple à problème, voilà. Donc, il y a quelque chose d'assez banal chez elle. Mais en même temps, elle a des souffrances particulières, elle a des crises, elle est prise par des visions, des choses terribles, et elle n'a aucune idée de d'où ça vient, et c'est dans le cadre de sa psychothérapie qu'il va se passer quelque chose, comme vous le rappeliez, et elle va être amenée à découvrir qu'elle a quelque chose en elle qu'elle ne connaît pas, mais qui est très très fort et qui est très installé. Et donc... C'est aussi cette idée, c'est-à-dire que nous, on voit des patients moi, je me souviens, une des premières réunions des groupes de parole, où il y avait des personnes qui étaient nées dans les années 50 et même 60, et qui étaient toutes descendantes de victimes de la Shoah, et qui ont exprimé en groupe, chacun disait, mais moi, je ne comprends pas. En fait, ils viennent, ils sont des énigmes. Ils sont porteurs d'énigmes. Je ne comprends pas, je regarde les photos, les rares photos qui me restent de ma famille, que je n'ai pas connues. Dessus, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des adultes, qui sont d'origine... Enfin, c'est des photos qui datent de la Pologne. Ou alors, j'entends des noms de personnes qui ont disparu. Et à l'évocation ou à la vision de ces photos, je me mets à pleurer. Et donc, ils réalisent qu'ils sont plusieurs, comme ça. Comment se fait-il que je pleure, qu'on pleure pour des gens, à cause de la mort de ces gens qu'on n'a pas connus? Et effectivement, c'était une vraie question de psychologue. C'est-à-dire, c'est des groupes de parole où on dit on va rassembler des questions qui ne rentrent pas dans les cases, mais on va essayer d'y répondre, et puis surtout, on va essayer de se soigner. Et donc, juste pour terminer, c'est des questions qui ont été posées par ces personnes et puis par ces descendants de victimes. Et on a commencé à interroger comment se fait-il qu'on ressente des souffrances de type deuil, de type dépression liée à des deuils de personnes qu'on n'a jamais rencontrées.
Alors, des questions de psychologue, un livre de psychologue, et je vais vous poser deux questions en une. Est-ce que cet ouvrage pourrait être un outil thérapeutique pour les personnes qui viennent vous consulter au centre de Veureux. Et là, l'autre question qui est liée, c'est finalement qu'est-ce qui pousse une universitaire comme vous l'êtes à choisir ce registre du roman, ce registre romanesque ? Et j'ai en tête un mot d'Emmanuel Lévinas, donc le philosophe, qui disait que c'était déchoir pour quelqu'un comme lui d'envisager de pouvoir écrire un roman. Donc c'est un peu violent, hein, mais quelle est votre démarche en fait derrière l'écriture de ce livre ?
Alors, permettez-moi de dire que pour moi c'est le contraire, c'est-à-dire que en fait, j'ai envie de vous répondre sur plein de plans. La première chose, c'est que mes premiers amours, c'est la littérature, c'est la fiction, lire Singer, lire Dostoïevski. Quoique à l'adolescence, je ne lisais pas Singer encore. Je pense qu'il faut être un peu plus mûr pour aimer Singer. Mais je lisais Dostoïevski, je lisais Balzac, Flaubert, et c'était extraordinaire. Et je n'ai jamais cessé de lire, bien que j'ai réduit ma lecture de fiction et de roman à cause de mon activité de chercheur et d'enseignante et de scientifique. Et donc, pour moi, la littérature, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. C'est le top niveau, on va dire. Et donc, pourquoi j'ai mis beaucoup de temps à écrire. Ça fait très très longtemps que j'ai Mona Rose dans la tête. Je l'ai depuis très 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 longtemps. Elle m'accompagne, mais que je me dise, je vais me mettre au roman, je vais oser la fiction et dire que j'écris tous les jours. Moi, dans le cadre de mon travail, j'écris les cours, j'écris les articles, j'écris des livres, j'ai fait des conférences. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est plus facile pour moi, parce que dès que j'ai fait mes études, j'ai commencé mes études, on devait rendre des textes théoriques. La fiction, c'est le saut dans l'inconnu. On ne maîtrise plus. On a quelques idées pour écrire un roman, je pense. Hein, c'est mon expérience personnelle. Maintenant, chacun fait comme il peut et comme il veut. Mais moi, j'avais quelques idées. J'avais un personnage qui pouvait incarner une question générale, c'est-à-dire qu'est-ce que devient la Shoah aux générations suivantes. Et puis après, d'autres petites questions peut-être moins générales, qu'est-ce qui se passe quand on est possédé, en fait. La question de la possession, parce que moi, je fais partie de ces gens qui pensent qu'on n'est pas à l'origine de soi-même, même quand on souffre. Sa propre souffrance, il y a autre chose. On souffre parce que quelqu'un vous veut du mal, on souffre parce qu'on a des... parce que ça rate dans la vie, parce qu'on ne réussit pas un examen. Les individus ressentent et réagissent à ce qui se passe autour d'eux. Et là, l'hypothèse de ce roman, c'est qu'on réagit par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, mais aussi par ce dont on hérite. Alors, c'est vrai que c'est une énigme, c'est-à-dire que la psychologie... Alors, la biologie, certes, a des petites hypothèses, mais pas sur des faits réels. Mais là, nous, dans notre clinique et moi, dans ma pratique, je vois des patients qui, tous les jours, quelles que soient leurs origines, hein, tous les jours sont susceptibles de souffrir à cause de ce qui s'est passé une génération, deux générations, des fois 10 générations avant, d'histoire de malédiction, par exemple, ou d'héritage compliqué, ou de jalousie qui date des générations précédentes. Et donc, c'était ça, l'idée. Et donc, ce roman, c'est une façon, de raconter une histoire et de faire passer au plus grand nombre à la fois l'histoire de la Shoah, mais aussi l'idée qu'on n'est pas à soi-même sa propre cause, sa propre origine, et que peut-être qu'on ne sait pas l'expliquer encore, mais on peut tout à fait souffrir au présent, dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle, dans sa vie économique, socio-économique, des conséquences de ce qui s'est passé aux générations précédentes. Et comme je ne sais pas l'expliquer, ben je l'ai raconté.
C'était plus facile de le faire sous la forme d'un roman. Donc, quand vous écrivez, est-ce que vous pensez à la réception du livre ? Est-ce que vous pensez qu'il peut être un outil thérapeutique pour vos patients, pour les différentes générations de survivants de la Shoah ou de génocide? Est-ce que vous pensez à ça?
Alors, Sandrine, je vais vous dire, franchement, quand j'écris de la théorie, bien sûr, puisque en plus, moi, je fais partie d'un groupe de psys, des nouveaux psys, qui, quand ils écrivent, pensent, ou quand ils font des conférences, quand nous faisons des conférences, nos premiers auditeurs, nos premiers lecteurs, ce sont nos patients. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que l'on pense d'eux? Donc c'est une, comment dire, une psychothérapie démocratique, une véritable psychothérapie démocratique, c'est-à-dire une pensée psychologique qu'on construit avec les usagers. C'est les premiers intéressés par les effets que nous avons sur eux. Donc ça c'est valable pour la théorie, la psychologie, enfin les écrits théoriques. Maintenant, un roman, c'est le contraire. Enfin, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est la première fois que j'écris un roman. Alors moi, je suis une consommatrice de romans. Je lis Robert Musil, je me dis, mais c'est extraordinaire. Je ne sais même pas comment on peut écrire un livre aussi, enfin, L'homme sans qualité, de façon aussi géniale. Moi, quand j'ai écrit, je n'avais aucun, comment dire, j'avais aucun sens. Je respecte quand même quelques règles d'écriture, mais je n'ai aucune idée de ce qui va, enfin, du lecteur. C'est le contraire. En fait, parce que j'écris et, à la différence des textes théoriques, psychologiques, où là je sais très bien quelles sont les règles, comment on doit écrire, qu'est-ce que vont penser mes collègues quand ils vont me lire, ceux qui font le même métier que moi, ceux qui écrivent aussi, qu'est-ce que vont penser les étudiants, les chercheurs, mes thésards, comment ils vont utiliser mes travaux. Là, pas du tout, c'est le contraire. Je commence à écrire, j'écris, j'ai ce personnage dans la tête, et elle s'impose à moi. Donc, en fait, moi, je suis une espèce de. En fait, je me suis retrouvée possédée par
Vous
Mona Rose.
aussi.
Pardon?
Vous aussi.
Oui, totalement. C'est-à-dire, c'est une expérience assez presque en miroir. Moi, je me suis retrouvée à la merci d'un personnage qui, au fur et à mesure de l'écriture, s'est imposé à moi. Donc, le lecteur potentiel, il est pas encore là. Et en plus, franchement, je n'avais aucune idée de comment ça pourrait être reçu. Et c'est vrai que quand j'ai envoyé mon manuscrit à la géniale maison d'édition L'Antilope, et que très vite, ils m'ont. Enfin, c'était assez rapide. Gilles Rosier m'a téléphoné pour me dire qu'il aimait, et Anne-Sophie de Révis, ils aimaient tous les deux le manuscrit et qu'ils voulaient le publier. Mais je me souviens très très bien où j'étais. J'étais sur le trottoir en train de marcher, j'étais allée faire des courses et j'ai dit à Gilles Rosier mais que j'étais étonnée et tellement heureuse quoi. C'est pas du tout, on pense pas, enfin moi je n'ai pas pensé à ça, mais moi je suis pas une professionnelle je suis pas une romancière professionnelle, moi je suis, voilà.
Une universitaire.
Ben oui.
Alors justement, ce personnage principal de Mona illustre la manière dont des souffrances non dites peuvent s'inscrire dans le corps et l'esprit et puis ressurgir des années plus tard. Et surtout, la note d'espoir, c'est qu'on peut en guérir. Donc forcément, quand on vous lit et qu'on connaît un petit peu votre parcours, on se dit que votre ancrage dans l'ethnopsychiatrie est à la fois fondamental pour votre inspiration et puis en plus fait passer des messages. Alors est-ce qu'on pourrait qualifier ce livre de roman ethnopsychiatrique ou de roman psychologique ou juste de roman?
Alors, bon, moi, je pense que c'est juste un roman parce que il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de terme. Et puis, on suit l'histoire d'une jeune femme pendant sa psychothérapie et au fond, elle évolue. Bon, on va pas raconter ce qui se passe, mais elle tombe amoureuse, mais ça marche pas. Enfin, il lui arrive quand même des choses très difficiles. Et maintenant, il y a dans le roman. C'était aussi un roman historique, plutôt, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, si, il y a des éléments ethnologiques, parce qu'on va découvrir ce que c'est que le monde juif polonais, qu'est-ce que c'est qu'un dibouk, comment on peut être
Oui.
possédé par un mort dans la tradition juive polonaise. Et d'ailleurs, son psy va le découvrir, elle va le découvrir, mais le psy qui est d'origine bretonne, enfin qui est parisien, qui connaît pas du tout cette histoire, va aussi apprendre les choses. Ça, c'est aussi un élément. Alors là, c'est du côté psy. Moi, ce que j'ai remarqué, c'était que. Une psychothérapie ne fonctionne vraiment bien que quand c'est un double apprentissage, c'est-à-dire que le patient apprend quelque chose sur lui-même, mais le psy aussi apprend quelque chose. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose, c'est une redéfinition du problème, et ensemble, ils font des progrès. Eh bien, ça, c'est dans le roman. Et donc, il y a une donnée ethnologique, et puis il y a beaucoup de données historiques, parce que j'ai tout inventé. Mais la partie vraie du roman, dans le roman, c'est les données historiques. C'est aussi, elle va aller au mémorial de la Shoah, parce qu'elle ne connaît rien. C'est pas qu'on lui a tué, c'est pas des secrets, c'est que c'est tellement loin. Qui sait comment vivaient, comment s'appelaient, comment se sont mariés les arrière-grands-parents? Mais je veux dire, Bon, aujourd'hui, on fait beaucoup de généalogie, mais encore, tout le monde ne le fait pas. Et puis, donc, elle va. Et en fait, elle, c'est pas qu'on lui a pas dit, c'est que c'est très, très loin pour elle. Elle a une trentaine d'années, elle a d'autres problèmes. Elle a des problèmes professionnels, elle a des problèmes amoureux. Enfin, c'est ça qu'elle doit régler. Et en fait, elle se rend compte dans la psychothérapie, il se passe des choses tellement particulières. Et elle est encouragée par son psy à le faire, qu'elle se rend compte que pour comprendre ce qui lui arrive dans ses crises personnelles, dans ses problèmes amoureux avec ses histoires d'amour qui foirent tout le temps, eh ben en fait, c'est en allant au mémorial de la Shoah, en apprenant, en découvrant, en apprenant ce qui s'est passé pour son arrière-grand-père, qu'elle va en fait décoder pourquoi elle, aujourd'hui, en 2024-2025, elle a autant de problèmes dans sa vie personnelle.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Nathalie Zaidé, qui nous parle de son premier roman, La patiente du jeudi, qui vient de paraître aux éditions L'Antilope. Il y a le yiddish dans ce livre, l'apparition du yiddish dans le sommeil de Mona, une langue qu'elle ne connaît pas et qui va créer un véritable mystère pour elle et pour son thérapeute. Et ce phénomène soulève en fait plusieurs questions. Comment des blessures enfouies, parfois inconscientes, peuvent se transmettre à travers les générations? Et finalement, quelle force a le mystère du non-dit? Est-ce que c'était ça que vous vouliez mettre en avant?
Alors, pour vous répondre franchement, je dirais les choses de façon encore plus radicale. Ce qui m'a motivée aussi dans ce roman, c'est de donner la parole aux morts. Et ça, si j'ai voulu faire ça... Hein, De leur donner la parole, de leur rendre leur statut. Les morts de la Shoah, tous les enfants de victimes, tous les descendants de victimes que je rencontre, que j'ai rencontrés et que je continue à rencontrer dans ma pratique avec l'équipe d'ethnopsychiatrie du centre Georges Devreux, tous évoquent que il y a un problème avec ces morts-là. C'est-à-dire que ce sont des morts qui sont morts de façon extrêmement injuste. D'où, à mon sens, des réactions très présentes chez les descendants de victimes de la Shoah qui sont allergiques à l'injustice, qui sont même des fois qui explosent devant, quand ils sont témoins d'une situation où il y a quelqu'un qui se fait maltraiter, mais même qu'ils ne connaissent pas. Ça peut être dans l'autobus, à la mairie, dans des situations où il y a des autorités. Et donc, c'est la mort des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents dans des situations abominables et injustes. Et au fond, ce roman, c'est aussi l'occasion de redonner leur force, leur statut, de présentifier, de les rendre présents à nouveau pour voir un peu, comment dire, dans quel état ils sont. Au fond, je vais vous dire, je vais même dire des choses qui peuvent paraître bizarres, mais moi, je crois à ça. C'est-à-dire, pour guérir un descendant de victime de la Shoah, il faut guérir les morts ou le mort qui est en souffrance, qui est resté en souffrance depuis la Shoah. Alors ça peut paraître très très bizarre, mais au fond c'est une les morts, les gens de la famille quand ils meurent, ils ne sont plus vivants, mais ils ne disparaissent pas du monde, de l'univers des personnes. Et bien là, peut-être que si on veut définir le problème de la Shoah pour les descendants de victimes, c'est de dire il y a une masse immense de personnes qui sont décédées et qui continuent à souffrir et dire que normalement, bon, la fin de la vie, on passe dans un autre état, on devient mort et puis il y a une existence des morts après et on cherche l'apaisement pour eux et pour les survivants. Or là, on a des millions de Juifs qui continuent à souffrir de la mort qu'on leur a infligée de façon à la fois terriblement injuste et aussi de façon abominable. Et même dans la mort, ils n'ont pas le droit de vivant, ils n'avaient plus le droit de vivre en tant que juifs. Et dans la mort, ils n'ont pas non plus eu le droit d'être morts en tant que juifs. Et je crois que c'est, au fond, la grande question qu'on doit traiter quand on prend en charge un descendant de victime de la Shoah.
Ce que vous dites est à la fois profondément spirituel et en même temps religieux. Ça me fait penser à la traditionnelle cérémonie du Yizkor, qui est célébrée entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ou qu'on soit religieux ou pas religieux, mais en tout cas descendant de victimes de la Shoah, eh bien, on fait une prière pour les victimes sans sépulture. C'est une tradition et en fait, c'est leur redonner finalement une sorte de mort décente, de considérer qu'ils sont vraiment morts et puis de prononcer un kaddish qui n'est pas la prière des morts, contrairement à ce qu'on imagine, mais la prière de sanctification du nom. Et donc, c'est une sorte de kaddish, en fait, votre livre.
Écoutez, Sandrine, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir parce que j'ai écrit ce livre, j'ai été guidée, je pense, tout le temps par ma mère, qui n'est plus de ce monde, qui était donc la fille d'une femme qui a été déportée, ma grand-mère, que je n'ai jamais connue, Soura Schrift. Ma mère est née Evelyne Chava, Evelyne Rosenberg, en 1936 à Paris. Et comme beaucoup d'anciens enfants cachés, juifs d'origine polonaise, d'un milieu très précaire, la lecture pour elle était quelque chose d'essentiel. Elle a été, je pense, une partie de sa vie psychique a été sauvée par le fait qu'elle lisait énormément et qu'elle empruntait des livres. Et alors, elle ne sortait jamais sans un livre sur elle. Elle lisait que de la fiction. Et j'ai écrit ce livre en pensant à elle du début jusqu'à la fin. Et en même temps, dans ce livre, dans ce roman, qui est au fond motivé par le souvenir des morts de la Shoah, et de les identifier, c'est-à-dire l'idée c'est de donner leur nom. Il y a énormément de noms que j'ai empruntés à des gens de ma famille qui sont décédés dans la Shoah ou qui sont décédés tout court. Et donc effectivement il y a quelque chose d'un... Ce livre ça pourrait être, effectivement vous avez raison, c'est un roman qui est pour moi aussi un grand kaddish.
Est-ce que vous avez rencontré des Mona ou des personnes qui avaient comme ça des sortes de dibouks en eux qui étaient habités par des traumatismes si forts que d'être le porte-voix de générations disparues?
Alors là, il faut que je vous dise que j'en ai rencontré, et pas seulement chez des Juifs. Enfin, j'en rencontre tous les jours, en fait, dans mon travail. Donc, j'appartiens à une équipe d'ethnopsychiatrie. Ça veut dire que les collègues sont formés en France, mais souvent d'origine étrangère, connaissent bien les traditions, justement, autour de la possession par les esprits, par les... Alors, en hébreu, on pourrait dire les shedim, ou le monde yiddish, on dit les dibouks, les esprits, les ancêtres, qui réclament les invisibles qui accompagnent les humains, en fait, dans les traditions, dans les cultures autres que la culture occidentale. Et donc, je rencontre dans ma pratique des gens tous les jours qui ont des moments de possession ou des moments où ils ont, on appelle ça des hallucinations, mais pour eux, c'est pas de la folie, c'est juste des moments où ils sont pris à certaines situations, dans certaines situations, ils sont pris par un être. Soit qu'ils connaissent, soit qu'ils ne connaissent pas. En Afrique du Nord, on parle de jnoun, de djinn, oui. Beaucoup. En Afrique subsaharienne, on dit les djinnas. Et c'est des sociétés dans lesquelles le fait de vivre... On sait qu'on est accompagné par un invisible. La plupart du temps, l'invisible ne se manifeste pas, et donc tout va bien. Et puis, il y a certaines situations où l'invisible se manifeste et empêche la personne de vivre. Et à ce moment-là, il y a des guérisseurs, il y a des thérapeutes qui sont, eux, habilités, qui connaissent ces invisibles, qui les identifient, qui les voient, et qui font ce métier très particulier de rentrer en relation avec les ancêtres, les invisibles, les esprits, les morts, et qui savent gérer, qui sont des intermédiaires, et c'est ça leur fonction, c'est des thérapeutes qui savent gérer la relation entre la personne vivante, humaine devant eux, et puis ces invisibles qui attaquent ou qui font pression sur le patient.
Ça paraît tout à fait étonnant, presque fou ce que vous racontez, comment d'un point de vue médical, sérieux, on peut porter un regard sur des esprits, de la magie.
Je vais vous répondre très simplement, Sandrine. Nous avons la même chose en Occident, mais ce sont les médecins qui font ce métier, qui font ce travail. Nous, nos invisibles, on a viré les invisibles qui ressemblent aux esprits, aux morts, aux ancêtres. En revanche, on a accueilli depuis maintenant au moins, ça fait au moins deux siècles, que le monde occidental est saturé en invisibles biologiques, génétiques, les virus. On a bien vu, je veux dire, personne n'a vu, enfin personne. Je ne pense pas que... Enfin, moi, je n'ai pas vu le virus du Covid. Vous ne l'avez pas vu. Je pense qu'on est il y a très peu de gens qui ont vu, véritablement vu. C'est-à-dire qui sont des biologistes, qui disposent de dispositifs et de machines capables de voir le virus. Nous avons vu les effets du virus. Alors là, pratiquement tout le monde, on a soi-même, sur soi-même, les effets... ou alors sur nos parents, ou sur nos compagnons, dans nos familles, chez nos collègues. On a bien vu l'effet que fait le Covid, mais qui a vu le virus du Covid? Personne ne l'a vu, pratiquement personne. Et nous avons vu nos médecins, qui même, la plupart de nos médecins, n'ont pas vu les virus. Mais eux, ils savent, ils appartiennent à un monde qui croit à ça, qui sait que c'est ça. Et nous, nous croyons les médecins qui, eux, nous disent qu'ils savent. Et donc, nous avons plein d'invisibles. On a, je ne sais pas, les électrons sont des invisibles. Enfin, mais il y a des spécialistes qui gèrent la relation entre nous, les humains, et ces invisibles qui, par moments, prennent véritablement possession de nous. Eh bien, ce travail d'intermédiaire entre l'humain malade et puis ces invisibles, ça, c'est un travail qu'on rencontre partout dans le monde. Maintenant, ce qui est différent dans chaque culture, ou dans chaque monde, ou dans chaque société, on va dire, dans chaque civilisation... c'est la définition des invisibles. Donc,
alors justement, j'ai envie de vous poser une question qui n'était pas prévue et peut-être qui est assez personnelle. C'est votre rapport à la croyance. Parce que vous parlez vraiment comme quelqu'un de profondément pieux. Est-ce que l'idée de Dieu ou de croyance entre en ligne de compte dans votre parcours et dans votre pratique professionnelle?
Alors, moi, j'ai un problème avec le terme croyance, Sandrine. D'après ce que j'ai compris de ce que c'est que d'être juif, Enfin, la plupart du temps, on ne nous demande pas de croire, donc c'est déjà pas mal, parce que croire, c'est difficile, hein. Mais on nous demande de faire. Alors, si vous me demandez si je respecte les mitzvot, je respecte les 613. Non, c'est pas vrai, évidemment. La croyance, c'est quelque chose de très particulier, c'est propre au christianisme, un peu à l'islam aussi. Mais chez les juifs, c'est pas très, très... Oui, il y a des croyants juifs. Mais moi, on va dire que je suis plutôt dans la moyenne des juifs, c'est-à-dire croire bof. J'aime bien qu'on me démontre les choses. Et pour ce qu'on vient d'évoquer, moi, ce que j'aime, c'est la pratique et l'efficacité. C'est-à-dire, le médecin... C'est vrai que le virus... J'ai pas cru, quoi. Enfin, j'ai pas besoin de croire. Je vois les effets du virus.
Mais vous croyez dans les âmes?
Alors, les âmes, je ne sais pas.
Du passé qui peuvent venir nous habiter?
Alors, moi, je ne crois pas.
Ou nous rendre visite?
En fait, j'ai vu.
Ah.
Voilà. J'ai vu des gens, je soigne des gens, j'en vois encore, qui, par moments, ne sont plus eux-mêmes. Leur voix n'est plus leur voix, leurs préoccupations ne sont plus les mêmes préoccupations habituelles. Il y a des gens qui deviennent très méchants, qui sont très gentils habituellement, puis tout d'un coup qui deviennent extrêmement violents. Des fois, c'est le contraire, hein. Des fois, il y a des gens méchants qui deviennent très gentils. On se dit « Ah, c'est bizarre, c'est pas lui ». Il y a des gens qui sont sous substance, qui changent de personnalité. Et donc, j'ai pas besoin de croire. Je vois que la personne n'est plus elle, il y a autre chose qui est là. Et donc, mon travail, c'est d'identifier qu'est-ce que c'est que cette chose, ou cet être, ou cette intention, d'où ça lui vient, et comment on peut le libérer de cet état de possession ou d'hallucination, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Et pour revenir aux descendants de victimes de la Shoah, et c'est ça aussi qui m'a motivée dans ce roman, c'est de cette jeune femme, elle est normale, elle est banale, mais de temps en temps, elle est rattrapée par des êtres qui ont une force incroyable. Et dans le roman, le psy va essayer de comprendre et elle va être comme un partenaire avec son psy pour dire, on va essayer de savoir, mais qui est là à ta place par moment et qui fait que tu deviens extrêmement agressive, extrêmement violente? Et qui engendre des problèmes dans ta vie.
Vous pensez qu'on peut guérir de tout, même de son passé qu'on n'a pas connu?
Ah oui, je ne sais pas si on y arrive, mais moi, en tant que professionnelle, je pense qu'on peut guérir de tout, puisque mon travail, c'est de la guérison. Donc sinon, j'arrête de travailler. Maintenant, est-ce que moi, je réussis à guérir mes patients? Ça, c'est très difficile.
Ouais. En tout cas, le praticien de Mona réussit à la guérir.
Oui, parce qu'il tombe sur une... Parce qu'il, d'abord, il est très curieux. Il est très... il lâche pas l'affaire. Donc, il ressemble à ces nouveaux psys. Et ça, c'est très, très bien. C'est des psys qui ne sont pas du tout dogmatiques, qui n'appartiennent pas à une école spéciale, lacanien, freudien, ou TCC, ou machin, et qui ne pensent pas que leur théorie, c'est la vérité. Voilà. C'est des nouveaux psys. Il y en a plein, il y en a de plus en plus. Moi, je forme les étudiants à ça. Ils sont ouverts à toutes les possibilités. Ce qu'ils veulent, c'est guérir leurs patients. Donc, ce psy est comme ça. Et donc, il va accompagner Mona et il va découvrir avec elle des choses. Il va l'encourager. Il ne va pas la lâcher, quoi. Et ça, c'est la règle numéro un quand on est thérapeute. Faut tout faire pour ne pas lâcher le patient. C'est difficile.
Alors, la patiente du jeudi, c'est aussi un style d'écriture particulier, fluide, immersif. C'est un peu comme un polar hein, quand on vous lit. Il y a à la fois la rigueur intellectuelle de votre expérience universitaire et puis la puissance du récit romanesque. Alors, on a l'impression vraiment que ce message est universel grâce à cette écriture. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, écoutez, je vous remercie de dire ça. En fait, je vais vous avouer, depuis que le roman est sorti, j'ai reçu des mails et des messages de gens qui écrivent et même sur les blogs, là, qui disent qu'ils n'ont rien à voir avec le judaïsme, ils ne sont pas du tout juifs, mais que le roman leur parle. Et il y en a certains qui disent « Mais Mona, c'est moi ». Et alors ça me fait vraiment plaisir parce que aussi, le roman porte une idée générale qui est justement que on peut toujours, enfin, pour comprendre ses propres souffrances, c'est toujours intéressant d'aller voir avant, d'aller voir qui étaient les ancêtres, qu'est-ce qui s'est passé aux générations d'avant. Et puis, n'importe qui, finalement, peut être rattrapé par une histoire très ancienne.
Est-ce que la quête d'identité, finalement, est une recherche de tout à chacun?
Sans doute. Oui, peut-être, mais là, c'est dans un cadre, c'est pour se soigner, là. Elle est obligée de le faire parce qu'elle ne va pas bien. Sinon, ma foi, moi, je pense que y a pas, enfin, si on a envie de s'intéresser à sa culture, à ses origines, c'est très bien. Mais si on n'a pas besoin de le faire et si on vit bien sans, c'est très bien aussi.
Alors, j'ai eu beaucoup de questions à vous poser, mais je vois que l'heure tourne. Et il y a une question pour conclure qui est classique, mais non moins difficile. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez?
Oh là, c'est compliqué. Pour se faire du bien.
Tout simplement.
Oui.
Alors moi, personnellement, je me suis fait du bien aussi en commençant votre ouvrage, peut-être aussi parce que je suis une descendante hein, de victimes de la Shoah, mais je pense que le message est universel. En plus, il y a cette quête, on ne sait pas comment ça va terminer, donc c'est vraiment très prenant, on peut le lire en une fois, un Shabbat par exemple. Donc vraiment, c'est un ouvrage que je vous recommande, La patiente du jeudi de Nathalie Zaïdé, qui vient de paraître aux éditions de l'Antilope. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et à très bientôt.
Sandrine Farce, c'est moi qui vous remercie.